franceinter.fr.
L'acidification des océans n'en finit pas de provoquer la crainte des scientifiques. La preuve, à nouveau cette semaine, avec une publication importante dans la revue Science.
Hermès est un petit Bernard l'ermite qui a un gros problème. L'acidification des océans menace sa maison. Un tiers de la pollution au dioxyde de carbone produite par l'homme sur la terre ferme finit dans les océans, acidifiant les eaux et rendant les coquillages et les coraux plus faibles et plus fragiles. Hermès est sur le point de découvrir ce qu'un océan plus acide signifiera pour lui.
Voilà Hermès, le Bernard l'ermite, cet extrait d'un dessin animé réalisé par le gouvernement australien pour la défense de la Grande Barrière de Corail. Et c'est pour illustrer notre sujet aujourd'hui donc à la une de la science, acidification des océans, qui aurait déjà causé d'ailleurs l'une des plus grandes extinctions de masse qu'ait jamais connue la Terre, selon des chercheurs écossais. Il y a 252 millions d'années, à la fin du Permien, plus de 90% des espèces animales marines et plus des deux tiers des espèces terrestres ont disparu. Alors comment relier justement ces nouvelles informations avec la situation actuelle de nos océans. On en discute avec vous, Jean-Pierre Gattuso. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au laboratoire CNRS d'océanographie à Villefranche-sur-Mer. Et puis à nos côtés en studio, Hervé Kem. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Rédacteur en chef du magazine Reporter. Hervé, que s'est-il d'abord passé effectivement il y a 252 millions d'années dans nos océans? Parce qu'on regarde ça avec beaucoup d'attention. Hein.
Oui, même si c'est très loin, c'était la période qui a fait la transition entre le Permien et le Trias, des aires géologiques donc très lointaines, où, comme vous l'avez dit, 96% des espèces marines ont disparu.
Oui.
Brutalement à l'échelle géologique, puisque c'est une disparition qui s'est étalée sur 60 000 ans.
Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé alors exactement?
Alors,
comment on explique cette disparition?
Plusieurs hypothèses qui l'expliquaient, qui essayaient de l'expliquer depuis longtemps, notamment le rôle des volcans et l'apport de l'équipe de l'Université d'Édimbourg dirigée par Matthew Clarkson,
ouais,
et d'effectivement montrer que ces volcans ont joué un rôle, mais par un mécanisme qu'on n'imaginait pas vraiment, qui est l'acidification. Qu'est-ce qui s'est passé? Les volcans ont relâché pendant une période très rapide, un excès de CO2, de gaz carbonique extrêmement important, qui a dépassé toutes les capacités d'absorption des océans. Le niveau de CO2 dissous dans les océans s'est accru énormément. L'acidité des océans s'est accrue et a entraîné, selon cette étude, c'est encore une hypothèse, mais ouais, bien fondée, une disparition des espèces, en voilà, commençant par les animaux à exosquelette, c'est-à-dire qui ont un squelette extérieur, comme les crustacés, qui étaient à l'époque très nombreux et qui ont particulièrement pâti de cette acidité qui a duré, ayons aussi cette échelle de temps en tête, pendant 10 000 ans.
Ouais, donc c'est une période courte, hein, mais où il s'est passé évidemment beaucoup de choses courtes à l'ère, à l'échelle géologique évidemment. Jean-Pierre Gattuso, donc cette extinction de masse à la fin du Permien, grande crise donc dans l'histoire de la vie sur Terre. Est-ce que la situation aujourd'hui est comparable finalement à ce qui nous attend là?
D'une certaine manière, oui, parce que, et en fait, l'épisode actuel de perturbation du cycle du carbone, qui est lié à l'utilisation des combustibles fossiles, on rejette beaucoup plus de CO2 aujourd'hui que les volcans n'en relâchaient à l'époque Permien-Triassique, d'après cette étude, puisque d'après cette étude, les volcans rejetaient environ 2,4 milliards de tonnes de carbone par an, alors qu'aujourd'hui, on en rejette 10 milliards de tonnes, 5 fois plus.
Donc c'est beaucoup plus inquiétant encore.
Le rythme est beaucoup plus inquiétant. En revanche, il y avait beaucoup de CO2. Cette période a été si longue, votre chroniqueur le disait, hein, 60 000 ans, qu'il y a beaucoup de carbone qui a été rejeté. En fait, on ne peut pas en rejeter plus de 3 000 tonnes, puisqu'on est, 3 000 milliards de tonnes concernant les combustibles fossiles. Donc c'est un épisode qui sera l'épisode actuel, est beaucoup plus rapide que dans le passé, mais il sera moins important en intensité.
Axel,
cette acidification menace-t-elle toutes les espèces marines?
Alors, ce travail montre que 96% des espèces marines ont disparu. C'est surtout les espèces qui ont un squelette ou une coquille calcaire, hein, comme des mollusques, mais aussi, ça a été mentionné, des crustacés, des coraux. Mm-hmm. Et ce qu'on retrouve aussi aujourd'hui, les espèces à squelette ou à coquille calcaire sont les plus affectées. La calcification devient difficile, et même le carbonate de calcium qui a été précipité a tendance à être dissous au niveau d'acidité les plus élevés. élevé.
Alors Jean-Pierre Gattuso, justement, Hervé Kempf parlait de ce processus d'acidification, donc a demandé 10 000 ans. Alors, je disais c'est long à l'échelle géologique, mais c'est très court, évidemment, sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui précisément? Est-ce qu'on risque de voir un processus encore plus rapide?
Donc le processus aujourd'hui est 5 fois plus rapide qu'il ne l'était d'après ce travail donc à la transition entre le Permien et le Trias. Je pense que cette vitesse ne va pas augmenter. On est actuellement sur le scénario le plus pessimiste de l'IPCC, c'est-à-dire un business as usual. Je ne pense pas que ça se renforce. Ouais. Il faudrait que ces émissions diminuent, mais probablement pas ne se renforceront probablement pas. Mais c'est un élément, ce travail là sur la période Permien-Trias est très important parce que ça fournit des informations complémentaires par rapport aux informations qu'on avait jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait des expériences au laboratoire de courte durée ou sur le terrain qui sont de durée courte, quelques semaines ou quelques mois. Et donc, on observe ce problème pour les espèces calcaires. Mais évidemment, comme on fait des expériences courtes, on peut se dire peut-être qu'il y a des phénomènes d'adaptation qui peuvent se produire. Or, la période géologique nous montre que non, il n'y a pas eu d'adaptation possible. Il y a eu des extinctions massives de très nombreuses espèces qui ont totalement disparu, ce qui suggère que à l'époque, bien que le taux d'augmentation du CO2 était moins fort qu'aujourd'hui, il n'y avait pas eu d'adaptation de ces espèces. Donc ça laisse rien augurer de bon sur, en tout cas sur les espèces calcaires.
Hervé Kempf, hormis la diminution des émissions de CO2, est-ce qu'il y a des moyens spécifiques de lutte contre l'acidification des océans ?
Ça reste quand même, il faut quand même le redire, la parade essentielle à ce phénomène. Il y a une autre possibilité, mais peut-être que l'avis de notre chercheur sera utile, c'est la géo-ingénierie, c'est-à-dire est-ce des expériences qui ont été faites à toute petite échelle et d'ailleurs je crois pas très concluantes, qui consistent à susciter une absorption plus forte du CO2 dans l'océan, ce qui fait que il se dissout différemment, il n'y a pas de taux d'acidité qui augmente. Est-ce que ces expériences de géo-ingénierie avec de la poudre de fer par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui est selon vous réaliste?
Ouais, Jean-Pierre Gattuso, c'est très controversé d'ailleurs, ces techniques de géo-ingénierie encore. C'est sur le papier.
C'est très controversé et on montre expérimentalement que si on augmente le fer dans certaines zones de l'océan, là où il en manque, on augmente la production primaire. Mais en fait, c'est déplacer le problème. C'est au lieu de laisser l'acidité augmenter en surface, ce qu'on fait par ce mécanisme, c'est le transférer cette acidité plus importante en profondeur. Et par ailleurs, il y a beaucoup d'impact potentiellement très négatif de ces fertilisations en fer, notamment une diminution de l'oxygène dans l'océan moyen ou profond. Donc je crois que l'avis de la communauté des océanographes est de dire que c'est sûrement pas quelque chose d'intéressant pour absorber le CO2 atmosphérique et c'est très dommageable au futur de l'océan.
Et pour vous, Jean-Pierre Gattuso, donc aujourd'hui, les moyens les plus efficaces de lutter contre ce processus d'acidification inquiétant des océans, ce serait quoi alors ?
C'est les réductions des émissions de CO2. On peut gagner un petit peu de temps, c'est-à-dire en fournissant aux organismes, en limitant les autres facteurs de stress, par exemple augmenter la surface et le nombre des réserves, arrêter de faire de la surexploitation des ressources marines. Ça permet de gagner un petit peu de temps en limitant le nombre de stress auxquels sont soumis les organismes et les écosystèmes. Mais c'est qu'un moyen de gagner du temps. On peut gagner peut-être 5, 10, 15 ans en attendant que finalement on arrive à trouver un accord pour limiter les émissions de CO2 vers l'atmosphère et éviter que 30% de ce CO2 se retrouve dans l'océan contribuant à son acidification. Donc on a tous envie que COP21, la conférence climatique de Paris à la fin de cette année parviendra à mettre en place un mécanisme qui permette de limiter ces émissions de CO2 et donc l'acidification des océans.
Hervé,
un petit point d'optimisme quand même.
Oui, s'il vous plaît, c'est possible.
Matthew Clarkson précise dans son papier que la quantité de CO2 qui avait été ajoutée à cette période de transition entre le Permas et le Permien et le Trias était bien supérieure à l'ensemble des réserves fossiles d'aujourd'hui. Donc on a encore une possibilité, à condition de laisser ces réserves fossiles de pétrole, de gaz et de charbon sous le sol actuellement.
Merci à tous les deux, Hervé Kempf et Jean-Pierre Gattuso. Et puis Axel, on n'oublie pas que la une Ocean est désormais disponible à part sur les podcasts.
Oui, un podcast de 10 minutes à télécharger en plus du podcast du dossier tous les jours.
Merci beaucoup. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, on en avait déjà parlé dans la tête au carré il y a 2 mois, le projet fou du neurochirurgien Sergio Cannavaro de greffer une tête sur un corps, vous vous en souvenez? Eh bien, son projet aurait trouvé un volontaire, il s'appelle Valery Spiridonov, il est russe, il souffre de la maladie dégénérative de Werdnig-Hoffmann, une pathologie qui innerve les muscles. Cet homme serait donc partant pour faire poser sa tête sur le corps d'un patient en état de mort cérébrale. L'opération pourrait même se dérouler dès l'année prochaine. Des smartphones sismologues, vos téléphones pourraient prévoir les séismes. Des scientifiques américains ont testé l'idée consistant donc à utiliser le GPS des téléphones pour détecter les faibles déplacements du sol pour en faire des capteurs sismiques nomades. Il suffirait que 0,2% de la population de la Californie participe pour pouvoir détecter en 5 secondes le départ d'un séisme. Ce système pourrait permettre pour des coûts dérisoires de pallier l'absence de réseaux d'alerte pointus dans certaines régions du monde. Et puis pour finir, la naissance d'un magazine scientifique par et pour les jeunes. Le premier numéro de Nordeca sort ce mois-ci, réalisé par les élèves du lycée Bajot de Lille, sous l'égide du journaliste Olivier Lapiro. Des océans à la spectroscopie en passant par le film Avatar, la première mouture est consacrée à la couleur. Les articles sont aussi à retrouver sur un blog nord-eka.fr et il est en lien sur la page de la Tête au Carré.